Vous cherchez.
Non. Ah, non, mais je vais faire sur. Ouais, je préfère l'avoir parce qu'il y a les. Il y a les anti-chèques, anti-sèches. T'es sûr que j'avais le mien? Ah, il est là, le mien. Voilà. Je vous attends 2 minutes, je suis acquis. On attend 2 minutes. Il y a Rabrand qui est aussi en zoom, donc je vais faire un. Ouais, si on fait 2 zooms, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non, ça se fait pas trop. C'est pas autorisé par la réglementation non plus. Quoi? Se passe là? On est au quatrième. On est au cinquième déjà? Okay. Bon, ils sont pas pressés sur le zoom, c'est pas grave, tant pis pour moi. Quoi? Non, non, mais c'est juste ici quand j'enregistre les choses sur le zoom. Donc voilà. Elle est où, Yanni? Fatigué, Yanni. Quoi? Pas grave, tant pis. On va y aller. D'accord. Si tu m'entends pas, fais-moi signe.
C'est nickel, désolé pour le retard.
N'y a pas de problème. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait? Partager, partager. Si y a besoin. On verra après si non. S'il y a besoin de partager, je prends un partage. D'accord. Donc, on avait vu la semaine dernière que Ashrei Adam et Fakhret Tamid, c'est quoi? C'est qu'en fait. L'idée de base, elle est que même si moi je suis bien, mais il faut que j'ai peur des autres. Ouais. Si les autres ils se conduisent mal, si les autres ils se conduisent mal, alors moi je peux pas dire. C'est-à-dire, le tzaddik, quand il est tout seul, il peut se comporter quelque part les malam derechateva. Pardon. Donc, ce que je disais, c'est que ce qu'on avait la semaine dernière, c'est qu'Ashrei c'est quoi? C'est qu'en fait, tous les Juifs, ils se comportaient mal. Il y avait beaucoup de sinatrinam. Et du coup, même si Rabbi Israël Ben Afkoulas y pensait qu'il pouvait se permettre un comportement, le malam idéref hateva, mais malgré tout, il aurait dû prendre en compte le fait que sa génération, elle n'était pas au niveau. Et puisqu'il aurait dû prendre ça en compte et qu'il n'a pas pris en compte, alors il a détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que de la même manière, l'idée elle est comme ça, c'est que de la même manière que les Divrei Torah, c'est quelque chose d'instable. Divrei Torah, c'est quelque chose d'instable. Ce n'est pas parce que j'ai étudié hier que je serai Talmid Chacham demain. De la même manière, puisque le Limoud il est instable, alors le Talmid Chacham, il doit avoir peur des fautes des autres. C'est comme ça le Maharal, il dit ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. De la même manière que, que le Limoud il est instable, le Talmid, donc ça veut dire que pas, je suis Talmid Chacham, mais je dois avoir peur du futur. Le Talmid Chacham, il doit avoir peur du futur. De la même manière, le Talmid Chacham, il doit avoir peur de la faute des autres. Alors là-dessus, il demande, le Maharal, Ve'en le'akshot. Ve'en le'akshot. Il y a lieu de se demander, Ma'inyan yeshlo lidog minachet al davarze. Quel rapport? Ouais. Quel rapport entre le fait qu'il faut avoir peur de l'oubli de la Torah personnelle et le fait qu'il faut avoir peur de la faute des autres? Quel rapport? Il dit non. De la même manière qu'il faut avoir peur d'oublier la Torah, il faut avoir peur de la faute des autres. Ouais. Parce qu'on a dit, celui qui a peur, Adam amefached chataat. Celui qui a peur, c'est parce qu'il est fauteur. Pachadu betzion chataim. On avait dit que celui qui a peur, indépendamment du Divrei Torah, qui a peur dans la vie, c'est à cause des fautes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la faute, elle est liée à la peur? Seconde. Juste une seconde. Pourquoi est-ce que la faute, elle est liée à la peur? Ben, celui qui a peur, celui qui est angoissé, ouais, on avait vu cette Gemara qu'on a trouvé quelqu'un qui était angoissé. Et il lui a dit, tu es un fauteur. Pourquoi? Parce que Pachadou Betzion Chataim. Donc on voit que l'angoisse et la faute, ils sont liés. Quel rapport? Pourquoi est-ce que le fauteur est angoissé? Il dit la raison, c'est parce que celui qui a peur, c'est un signe qu'en fait, il est Baalchet et Baal Chisaron. Et il n'est pas entier, il n'est pas intègre à cause de la faute, et donc il a peur. L'idée, elle est comme ça. Quelque chose qui est entier, qui est complet. C'est très dur de le déstabiliser. Si j'ai une pierre dans laquelle il n'y a aucune faille, il n'y a aucune fissure, alors pour la casser, il va falloir vraiment que je m'y mette de toutes mes forces. Mais là où il y a une faille, là où il y a un manque, alors il y a aussi une instabilité. Et donc, c'est plus facile de l'abattre, c'est plus facile de le briser. Et donc, le fauteur qui n'est pas entier, qui n'est plus intègre, donc, il est en danger. La personne intègre, elle est entière. Et en tant qu'elle est entière, il n'y a pas de risque. Une seconde, il faut essayer quelque chose. Jonathan, tu m'entends ou c'est. Ou c'est saccadé? Une seconde, je ne sais pas ce qui se passe.
C'est un peu saccadé, effectivement, ouais.
Un peu
Je vois que la
saccadé.
connexion est... Enfin, votre connexion, après.
Oui, je vais essayer quelque chose alors. On va essayer quelque chose alors. Une seconde. C'est où ça? Une seconde, s'il te plaît. Désolé, j'espère que ça sera mieux. Donc il demande comme ça, il
Ça a
demande
l'air.
comme ça. Donc il dit comme ça. Le Maharal, il dit comme ça. Puisque tu es fauteur, donc tu n'es plus entier. Celui qui faute, il s'abîme. Chataim tirdovra. Celui qui est dans la faute, il est plus entier et donc il est poursuivi par le mal. Et donc il a peur. Et donc quand il a vu cet homme-là, quand il a vu cet homme-là qui avait peur, il a dit, tu es un fauteur. Parce que la faute, c'est la source de la peur. Et donc, puisqu'il est plus entier, alors il risque la destruction. Mais celui qui est entier, il n'est pas prêt à la perte. C'est-à-dire que si on prend quelque chose d'entier et qu'on le casse, il y a un chidouche. Quelque chose qui est fissuré, qui s'effondre, une maison qui a une intégrité structurelle. Insupportable. C'est parce que j'ai un problème de connexion.
On arrive à comprendre quoi, ça coupe un petit peu, mais ça va, c'est pas.
D'accord. Bon, désolé, j'essaierai de faire mieux. Alors, donc on dit comme ça. On dit une maison qui a une intégrité structurelle, elle n'a pas de raison de s'effondrer. Si pour la briser, il faut ramener des appareils de démolition. Ça vient de l'extérieur. Mais tant qu'ils ne sont pas là devant la maison, bah, je n'ai pas de raison de craindre que le toit va me tomber sur la tête. Mais s'il y a des fissures qui commencent à apparaître de partout, s'il y a des fissures qui commencent à apparaître de partout, alors là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est une autre paire de manches. Et donc, ça, c'est l'idée de Pachado Betzion Chataim. Alors, on dit, ah, mais alors, donc, si c'est que la faute qui est source de peur, alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué Ashrei Adam Mefached Tamid? Et c'est Divrei Torah. Il dit, parce qu'en fait, la Torah aussi, l'homme, il peut être intègre, mais sa Torah, elle n'est jamais entière. Pourquoi? Parce que la Divrei Torah, ils sont prêts à être perdus. Divrei Torah, une maison, naturellement, elle tient jusqu'à un certain point. Les Divrei Torah, ils sont prêts à être oubliés. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est fait de chair et de sang, ce n'est pas évident pour lui, ce n'est pas naturel pour lui d'acquérir la chorma qui est intellectuelle, qui est le contraire du corps. Donc, bien que je peux étudier, je peux être connaît la Torah, mais ce n'est pas entier. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une rupture, il y a toujours un problème, il y a un décalage entre moi qui suis fait de chair et d'os et la Torah qui est pur intellect. Et donc, bien que j'ai étudié, bien que j'ai acquis la Torah, mais néanmoins, ça reste quelque chose de pas naturel et qui s'oublie facilement. Et comme la Gemara dit dans Chagiga, que les divrei Torah, ils sont difficiles à acquérir et faciles à oublier. Donc forcément, Ashrei Adam Mefached Tamid, c'est quelqu'un qui est conscient que la Torah qu'il a acquise, il peut l'oublier facilement, il peut la perdre facilement. Et donc, il est toujours dans la peur d'oublier, parce qu'il est conscient de son propre manquement. Il n'y a pas de confiance en soi dans la Torah. Celui qui est confiant, qui a une confiance de soi dans la Torah, lui, il risque d'oublier. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai étudié, j'ai étudié. Mais celui qui est conscient que la Torah, ça s'oublie, alors toujours, il va faire attention. Et donc, pour lui, c'est quelque chose de bien. Ashrei Adam Mefached Tamid. Ashrei Adam Mefached Tamid. Donc, la Torah, c'est une raison, c'est quelque chose qui n'est pas entier. Et puisque c'est pas entier, alors, c'est une bonne chose d'avoir peur. Mais quelqu'un qui faute aussi et qui a peur de tout, il n'a pas juste peur de la Torah, mais il a peur pour lui-même. Moi, je peux être un tzaddik, mais j'ai peur pour ma Torah, parce que la Torah, ça s'oublie. Mais le rachat, il n'a pas peur de sa Torah, il a peur pour lui-même. Et ça, c'est la. Et donc, la peur, qui est une peur généralisée, une angoisse, une anxiété généralisée, c'est le signe qu'on n'est pas entier, qu'on est fauteur et qu'on n'est plus intègre. Ouais. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Ashrei Adam Mefached Tamid, c'est un choté? Parce que il n'est pas heureux, il doit avoir peur, c'est normal. C'est comme quelqu'un qui est malade, mais quelqu'un qui est malade, qui est en danger de mort, il doit avoir peur, mais on ne peut pas dire heureux l'homme qui a peur s'il est en danger de mort. On préférait que tu ne sois pas en danger de mort. Mais les Divrei Torah, au contraire, la peur là-bas, elle est salutaire. Pourquoi? Parce que justement, ça te permet d'avancer dans la vie, ça te permet de garder ton limoud. Donc on est dans le positif, on n'est pas dans le négatif. Pour reprendre encore des métaphores montagnardes, mais la peur, elle permet à quelqu'un qui n'a pas la peur, la montagne, c'est très dangereux pour lui, parce qu'il ne sait pas c'est quoi ses limites, il ne sait pas où il est le danger. Quelqu'un qui a une peur, ça lui permet justement d'aller en montagne. Donc ici, c'est la même idée. Tu veux la Torah, tu veux l'acquérir, tu ne veux pas la perdre, alors sois dans la peur. Ashrei Adam Mefached Tamid. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la Torah, c'est une bonne chose d'avoir peur. Et il dit, mais Mimela, puisqu'on voit que là où il y a une absence d'intégrité, la peur est présente, alors même le tzaddik qui vit dans une génération de fauteurs et d'avoir peur de la faute. Pourquoi? Parce que on n'est jamais shalem tout seul. Un juif, il n'est jamais shalem tout seul. Même si moi je suis shalem, Mais je fais partie d'un peuple et les fragilités du peuple, elles vont m'atteindre. Et donc, je dois avoir peur. Je dois avoir peur. Donc, puisque de la même manière que la Torah, ça se perd, de la même manière, le tzaddik qui peut perdre sa mahala à cause de la génération. Un tzaddik dans une génération de tzaddikim, c'est facile. Mais un tzaddik dans une génération de réchaïm, quelque part, il n'est pas entièrement tzaddik. Quelque part, il risque de se perdre. Il y a une fameuse Gemara qui dit que la raison pour laquelle les tzaddikim, ils ont été détruits, ils ont été tués pendant le Khorban du Beit Rishon, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé d'éduquer les gens de la génération. Ils n'ont pas été mochés. Ils les ont laissés faire. Ça veut dire que le tzaddik qui vit tout seul, qui fait pas partie de sa génération, quelque part, en fait, il n'est pas entier non plus, il doit mourir. Le tzaddik, un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui élève sa génération. Si je suis tzaddik dans une génération de pécheurs, en fait, je ne suis pas entier. Parce qu'un vrai tzaddik, comme il y a marqué que Rabbi Yehoshua ben Lévi, si je me rappelle bien, il n'a pas eu l'arc-en-ciel de tout son vivant. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik comme ça, il élève toute sa génération. Un tzaddik, un vrai tzaddik, qui mérite peut-être de rentrer vivant au Gan Eden, etc., il élève toute sa génération. Et un tzaddik qui n'a pas réussi à élever sa génération, quelque part, il n'est pas si tzaddik que ça. Quelque part, il se fait, au lieu de tirer sa génération vers le haut, il s'est fait tirer vers le bas. Et donc, il devrait avoir peur. Et donc, Ashrei Adam Mefachet Tamid. D'accord. Donc, ça, c'est pour ça qu'on aurait dû avoir peur. Ça veut dire que le tzaddik, il ne peut pas prétendre à un comportement, une attitude de tzaddik les malam et derech hateva si sa génération n'est pas au niveau. D'accord. Maintenant, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Kamsa et Bar Kamsa. Donc, on avait vu le Ma'amar Chazal qu'il y avait Khurban Yerushalayim, il y avait Khurban Betar et Khurban Tour Malka. Ouais. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce que la destruction elle a été séquentielle? D'abord, il y a eu Khurban Yerushalayim à part, il y a eu Khurban Betar à part, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'était des événements différents? C'est-à-dire que la Gemara, elle considère comme ça, comme deux événements distincts. Nous, on voit ça, le Khurban Habayit, la Galoute, on met tout dans un même sac. Mais la Gemara, elle dit non. Yerushalayim a été détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa, et Betar, il a été détruit à cause d'une tarnégo à cause de Saka des Rispak. Ouais, c'est un attelage de dames. Donc la Gemara, elle considère que c'est deux événements distincts. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'était pas un seul événement? Quand Yerushalayim a été détruit, dans la Xéra, tout a été détruit avec. Et à part ça, pourquoi est-ce que Tour Malka, c'était la montagne du roi, c'est un endroit très important. Elle a été détruite à cause d'un coq et d'une poule, comme la Gemara, elle va le raconter. Et donc, une grande ville comme Tour Malka a été détruite à cause d'une sombre histoire de poules et de poulets. C'est ridicule, quelque chose comme ça, d'aussi important, d'aussi conséquent, il peut pas avoir eu lieu à cause de quelque chose d'accidentel. C'est un grand yesod dans le Maharal, pardon, que Dvarim Gdolim Enam Bemikré. Les grandes choses, elles sont pas accidentelles. Quand on voit quelque chose de grand, les gens là, il y a tous ces gens-là qui demandent, voilà. Il demande une Vaadat Hakira. Ouais. Quels sont les problèmes qui ont amené au 7 octobre? Comme si tout ça, c'était une série d'accidents, une série d'incidents qui ont mené à une conséquence tragique. C'est l'inverse. Im Hashem lo yishmor ir, shav shomer. Dieu, il est aveugle, ceux qui voient. Ouais. Pokiach Ivrim, ça c'est quand il veut. Mais il est Mahavir Pikrim aussi quand il veut. Pourquoi? Il y a une raison. Dvarim Gdolim Enam Bemikré. Donc, comment on comprend qu'une grande ville, Tour Malka, la montagne du roi Haramelef, elle a été détruite parce qu'il y a une histoire d'un poulet et d'une poulet, d'un coq et d'un. Voilà. Pourquoi? Et Bétard aussi, c'est à cause de la cloison d'un carrosse de femme. Pourquoi? Et Yerushalayim, Ir HaKodesh, a été détruite parce qu'il y a eu une dispute entre deux notables. Deux notables, ils se disputent, Yerushalayim, il est détruit. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, on comprend qu'une communauté, elle explose à cause d'une dispute entre le président et le comptable. On a l'habitude. Mais le Beth Amikdash, à cause d'une dispute de ce genre, ça, c'est étrange. C'était trois successifs, c'était trois épisodes différents. C'est la même époque, c'est la même époque, mais il y a plusieurs dizaines d'années de différence, certaines fois. Il me semble que oui. Mais pas dans le Bédard, c'est plusieurs dizaines d'années après le Khurban Abaït. C'est pas un corollaire, non, c'est un événement indépendant. Oui.
Non, c'est vrai que par rapport à la, comment dire, au Khourban du Bayit, du Beth Amikdash, dans la Gemara, techniquement parlant, on voit bien que ce Sipour, il a entraîné directement le Khourban par rapport à la diplomatie romaine, etc. Ça veut dire,
Oui, mais.
je trouve que précisément par rapport à cette histoire, la question est moins forte.
Non, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, mais comme j'ai. Le Maral, il a un Yesod. C'est-à-dire qu'en fait, les événements historiques, ils ont lieu, mais ce sont juste le témoin ou les moyens de quelque chose de profond. Parce qu'en
D'accord.
fait, cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, c'était un malentendu. C'était un malentendu. C'est un accident. C'est un accident. On ne dit le Maral un Yesod. Les grandes choses, on ne peut pas les dire, on ne peut pas imaginer qu'elles sont le fruit d'un accident. Il n'y a pas d'accident. Pas dans les grandes choses. Les accidents, c'est pour les petites choses. Si Hachem, il a laissé faire que le Beth Amidash soit détruit, ce n'était pas un accident. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de profond. Oui, mais cette histoire-là, c'est l'histoire. Oui, mais plus, c'est-à-dire, d'accord, mais pourquoi est-ce que, c'est-à-dire qu'en fait, le Maharal, il dit, tout cet événement-là, toute cette chaîne d'événements, elle est le témoin de quelque chose de sous-jacent, de très profond. Et pourquoi? Alors, il dit comme ça, Da, sache, qui divrei chachamim amukim me'od me'od. Encore une fois, il y a une notion, c'est du moussard. Mais chez le Maharal, il y a un concept de Emunat Chachamim. Ça veut dire qu'on parle, quand les Chachamim y parlent, c'est Dvarim Amukim Meod Meod. On n'en parle pas comme ça. Pardon. On parle pas de Divrei Chachamim comme on parlerait de diverses théories d'Henri Potter. Non, c'est Dvarim Amukim Meod Meod. C'est même pas un livre d'histoire. Les Chachamim, ils ne font pas de la chronologie. Ils sont pas dans l'histoire. Ils sont dans le réel, dans les choses profondes qui sont méod, méod. Et il dit comme ça, quand les Juifs, ils étaient en Eretz Israël, alors, donc il y a un concept de Yishuv Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, elle est habitée. Et le Yishuv Eretz Israël, il se traduit, il a trois aspects. Il y a trois aspects qui sont fondamentaux au Yishuv Eretz Israël. Le premier, c'est que c'est Makom Shrina. Eretz Israël, c'est un endroit où la Shrina, elle est révélée. La Shrina, elle réside parmi eux. Et ça, c'est la forme d'installation la plus grande que, par exemple, on dit dans un couple, Zachu Shrina Beneem. Pourquoi? Parce que quand il y a la Shrina, alors on est dans le vrai, on est dans l'existence, on est dans la stabilité. En lecha yishuv que Mosé. Et plus que ça, parce que quand Dieu il est présent, alors il y a la bracha. Et il y avait le regard de Dieu qui était toujours sur Eretz Israël. Donc la première mahala, c'est que c'est quand le juif s'en arrête Israël, il y a une ashrat ashrina qui amène la bracha. Deuxième aspect, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Eretz Israël, à l'époque, il y avait Yishuv Eretz Israël, il y avait beaucoup de gens. Ce n'est pas des individus qui sont dispersés tels des nomades. Non, il y a une civilisation. La troisième chose, c'est que historiquement, à l'époque, ou même jusqu'à pas si longtemps, il y avait des petites villes et il y avait des villages et des milliers de villages. Et les villes, elles n'étaient pas grandes. Ouais. Ouais, il y avait très peu de villes dans l'histoire qui ont dépassé 600 000 habitants. On peut regarder, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais à cette époque-là, il y avait le Yishuv d'Eretz Israël dans des grandes villes. C'est-à-dire que non seulement il y avait beaucoup de gens, mais ils étaient rassemblés. Il y avait une urbanisation. Il y avait, pas seulement une urbanisation, mais il y avait une. C'est quoi le mot en histoire quand les gens ils quittent la campagne pour aller en ville? C'est l'exode où il y avait. Mais non, c'est l'inverse de la ruralisation.
Exode rural, non?
Oui, mais ça c'est plus,
Non,
ça
mais.
c'est l'exode, c'est une connotation négative. Mais là, il y a une idée qu'il y a les gens, ils se retrouvent dans les villes. Bon. Et donc ces trois choses-là, c'était
Ah,
les aspects.
décentralisation, urbanisation.
Moi, ouais, l'urbanisation, disons. Donc, il dit, c'est trois aspects du Eretz Israël. Le premier, c'est que c'est un endroit de bracha, ce n'est pas un désert, ce n'est pas un endroit aride. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gens. La troisième, c'est comme on a dit, c'est des grandes villes. Et quand on regarde dans le passage, on voit que ces trois choses-là sont mentionnées. Comme il est dit, ou Réitem et Taharetz Maï, ouais, à Tovaïmra, à Yeshua et Timaïn, et le peuple, à Chazakou Arafé, à Meatou Imrov. C'est quoi Arafé Ameatou Imrov? Donc le peuple, c'est quoi Arafé Ameatou Imrov? C'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou pas? Est-ce que la population, elle est nombreuse ou pas? Après, il dit Umaaretz Atovaimra, Umaayarim Ouais. Donc est-ce que les gens, ils sont bien installés? Est-ce que c'est des camps ou c'est des forteresses? Est-ce qu'ils ont des villes fortes ou pas? Et encore une fois, il dit la terre, elle est bonne ou pas. Est-ce que c'est une ville de jardin, une ville de. Moi, j'ai le mot qui m'est. De verger. Ouais. Donc, ça, c'est la bracha de la terre. Etc. Etc. Et donc, quand Eretz Israël a été détruit, il y a eu trois destructions successives. La première destruction, c'est Yerushalayim. Et donc, la Shrina, elle est partie. Nistalka Shrina Mibénéem. Et donc, en conséquence, la bracha, elle a quitté la terre d'Israël. Comme il y a marqué dans Sota Daf Memchet, que les brachot, elles étaient en Eretz Israël à cause du Beth Amikdash. Et c'est des choses qui sont claires. Après, Tour Malka, qui était une ville, en fait, Tour Malka, c'était une montagne dans laquelle il y avait 70 villes. C'était pas une ville forte, mais c'était une région qui était très densément peuplée. Il y avait plein de villes. Et donc, c'est ça, c'est les 70 villes qui appartenaient à Yana et qu'on appelait Tour Malka. Et pourquoi est-ce qu'on les appelait les villes du roi? Parce que Rov Am Hadrat Meler, un roi, il a besoin d'avoir une population nombreuse. Et après, c'est Bétar qui a été détruit parce que Bétar, c'était la ville forte, c'était la forteresse. Donc, il y a eu trois étapes. Première étape, Silouk Shrina. Deuxième étape, c'est en fait l'aspect où il y a beaucoup de gens qui disparaît. Mais il reste encore des gens qui sont concentrés dans une place forte. Mais puisqu'il n'y a plus la bracha et qu'il n'y a plus un arrière-pays pour assurer l'entretien de la forteresse, en fin de compte, c'est la forteresse qui s'effondre. Il y a trois étapes à la chute. La première, c'est qu'Hachem, il enlève la bracha. La deuxième, c'est qu'il n'y a plus de ribouï âme. Et en fin de compte, même là où les gens ils sont concentrés pour avoir quelque part un dernier sursaut, cet endroit il finit par s'effondrer, même qu'il était très fort. Et donc, chacun il a été détruit à cause de quelque chose qui correspondait. À cause de Sinat Rinam, Yerushalayim a été détruit. Et en fait, la Sinat Rinam, elle était très enracinée. Et donc, c'est symptomatique de cette Sinat Rinam. L'histoire de Bar Kamsa et Bar Kamsa était symptomatique de la Sinat Rinam. C'est-à-dire que toujours, on s'imagine qu'il y a des choses spirituelles. Oui, le Lashon Hara, oui, toutes les Averroes, c'est des choses spirituelles. Mais comme toujours, les choses spirituelles, elles finissent par avoir un impact direct sur notre réalité, à tel point qu'on a des mécanismes historiques, politiques, qui sont les reflets de choses rouhaniot. Comme le Ramchal, il développe beaucoup cette idée que, en fait, nous, on fait des actions qui vont changer, modifier ce qui se passe dans les sphères supérieures. Et puisque les sphères supérieures, elles influencent tout ce qu'il y a en dessous d'elles, ben en fin de compte, il y aura une réaction qui sera perceptible dans notre réel à nous. Donc, puisque le problème du Beth Amikdash est Sinatrinam, alors il y a eu un mécanisme de Sinatrinam, c'est-à-dire que c'est une idée qui est devenue histoire. On a un état de fait, un état spirituel qui devient un fait d'histoire. Ça, c'était Khorban Yerushalayim. Ouais. Comme on avait développé avant. Comme on avait développé dans les Prakim d'avant, que par le Beth Amikdash. Par le Beth Amikdash. Par le Beth Amikdash. Par Yerushalayim. Tous les peuples étaient communs, puisqu'ils avaient un seul Mizbéach, et ils pouvaient. Tous les korbanot devaient être faits au même endroit. Donc il y avait un endroit qui rassemblait le peuple juif, qui fédérait. C'est un endroit qui fédérait. Et quand il y a eu la marque Loquette, donc l'endroit qui fédérait le peuple juif, il a fini par être ruiné, puisque son but c'était de fédérer, il n'y arrivait plus, et donc il a été détruit. Et donc c'est parfaitement adapté que la Sinatrinam, elle a détruit Yerushalayim et le Beth Amikdash. C'est ça. Et donc le Maharal, il continue, il dit, mais si on regarde encore plus que ça, parce que quand tu fais attention, le lachon de Kamtsa, Kamtsa, c'est Milachon Chilouk. Parce que Kamtsa, c'est la partition, la séparation. Ouais. Comme la Kmitsa qu'on enlevait, qu'on avait un Korban Mincha, alors on prenait une poignée avec les mains et qu'on séparait du reste. Donc Mitsa, c'est pas seulement la chaîne de points, c'est la chaîne de séparation. Et Chachamim, ils disent, dans le cas, par exemple, de frères on parle là-bas de frères qui ont hérité d'un champ. Ils ont hérité un champ et l'ont partagé. Et après, il y avait une dette sur ce champ. Et le créditeur, il s'est saisi d'une des parties du champ. Alors après, ils doivent se débrouiller entre eux. Ça veut dire quoi? Mais Kamtim Bénéem, chacun, ils vont se partager. On va prendre un petit peu de chacun pour qu'il n'y en ait pas un qui soit le seul perdant. Et donc, ce qui est séparé, ce qui est enlevé, c'est ce qu'on appelle le kometz. Ouais, c'est une partie de tout. Et dans la chaîne de Chachamim, le chagav, la sauterelle, on l'appelle kamtsa. Comme il dit, vani ou benenu kachagavim, unkelos est traduit kekmatsim. Pourquoi? Parce qu'ils sont très nombreux. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sauterelles, donc ils l'appellent kmatsim. Et c'est pour ça qu'on l'appelle arbe, alchem aribouy. Et l'idée, c'est quoi? C'est que l'idée, le pluriel, c'est l'opposé de l'unique. Quand le peuple juif, il est unique, il n'est pas pluriel. Si on voit le peuple juif comme un nuage de sauterelles, c'est qu'en fait, ils se sont individualisés. Donc maintenant, on a des milliers d'êtres différents qui ont chacun son propre intérêt. Chacun, il poursuit son propre intérêt. Ils sont devenus d'un peuple uni, finissent par ressembler à un nuage de sauterelles. Voilà, ils sont devenus comme un nuage de sauterelles. Donc, pourquoi? Parce que la multiplicité, c'est le produit de la séparation. Donc, c'est pour ça que les sauterelles, qui sont nombreuses, on les appelle comme ça. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on dit, dans Michelet, il y a marqué, Meler en la harbe. Les sauterelles, ils n'ont pas de roi. Pourquoi? Parce que le roi, il unit tout le peuple. Le roi, c'est celui qui va unir le peuple en un peuple uni. Et les sauterelles, tellement elles sont nombreuses, qu'en fait, il n'y a rien pour les rassembler. Il n'y a rien pour les rassembler. Ouais. Et il dit, c'est aussi dans Michelet à ce machal, l'air, elle n'est mal à Hatzel, à Sharana Katlin Bishoter. La sauterelle aussi, la fourmi aussi, elle n'a pas vraiment quelqu'un qui la dirige. Ouais. Et la Némala, elle s'appelle aussi Kamtsa. Pourquoi? Comme on voit dans la Haggadah de Og Melech HaBashan, qu'il a arraché une montagne. Donc en fait, Og Melech HaBashan, il se battait contre Moshe, il a voulu soulever une montagne, il a soulevé une montagne pour le jeter. Et Hachem, il a envoyé Kamtsa, une fourmi, et qui a rongé la montagne, et la montagne, elle lui est retombée dessus. Et pourquoi ça s'appelle Kamtsa? Parce que quelque chose qui est petit, comme la Némala, on l'appelle Kometz. Parce que toute chose qui est unique, c'est quelque chose de petit. Un groupe, il est fort, l'individu, il est petit. Donc la fourmi qui est petite, elle s'appelle aussi Kamtsa. Parce que l'idée de petitesse et l'idée de ne pas appartenir à un groupe, ils vont ensemble. D'accord. Et donc, puisque Kamtsa et Bar Kamtsa, ils étaient divisés par leur haine, c'est normal qu'on les appelait Kamtsa et Bar Kamtsa. Certes, il y en a, ouais, faudrait étudier pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est Kamtsa, c'est le symbole de la haine, et l'autre, c'est le fils de la haine. Il y en a un, c'est la haine, la séparation, la marloquette, et l'autre, c'est le fils de la haine. Ce serait intéressant, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir pourquoi. Ouais. Non, parce qu'en fait, Kamsa, c'était l'ami, et Bar Kamsa, c'était l'ennemi. Mais donc, puisque Kamsa et Bar Kamsa, c'était des gens qui étaient différents et qui n'étaient pas unis. Donc c'est à cause de ça qu'ils n'ont jamais été détruits.
De l'autre.
Oui.
Mais c'est pas la
Alors, c'est une très bonne question. Elle est tellement bonne que le Maharal, il demande comme ça. Veyesh lecha. Alors, Bar Kamsa, oui, lui, il est coupable. Mais Kamsa, qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on dit Kamsa? C'est à cause de Kamsa. Kamsa, il était chez lui, il se demandait pourquoi il n'avait pas été invité. Ouais. Kamsa, il n'est pas coupable, il n'est pas responsable. Il était chez lui en se disant, mais pourquoi mon ami ne m'a pas invité pour ce repas? Il était peut-être très vexé, mais en quoi Kamsa il est coupable? Pourquoi est-ce qu'on dit Ali des Kamsa ou Bar Kamsa Chareve
c'est
ou Oui, mais d'accord, mais. Oui. Oui, mais même si. Oui. Mais même s'il était venu, Bar Kamsa il était déjà là puisqu'il avait été invité, on n'aurait rien gagné. Alors il dit comme ça, Yesh le Khaladat, que parce que. Il y avait dans la génération de la Sinatrinam et de la Machloket, et que là où il y a de la Sinatrinam, alors j'ai des amis. Là où il y a de la Machloket, j'ai des amis, mais ce n'est pas des amis, c'est les ennemis de mes ennemis. Voilà, c'est qu'en fait, il y a des gens, quand il y a de la paix, alors on a des amis, mais quand il y a de la Machloket, la moitié de nos amis, ce n'est pas nos amis, c'est les ennemis de nos ennemis. Ouais, dans les mots. Chez Icarlo Oev, l'achlok qui m'a cherché Sonello. Qu'est-ce qu'on partage? On partage la détestation de quelqu'un. Et c'est ce qui était là. Que quand on dit que Kamsa c'était son ami, c'était qu'en fait Kamsa c'était son ami contre Bar Kamsa. C'était pas juste son ami. C'était qu'en fait il y avait Kamsa et l'autre contre Bar Kamsa. Oui, mais en fait, donc quand on dit que cet homme-là, l'autre, il était ami de Kamsa. Cette amitié, c'était de la machloket. Ouais, c'est plus parce qu'en fait, il y a de l'amitié qui est une source de hardout. Et il y a de l'amitié qui est en fait source de machloket et qui est en soi machloket. Et donc, non. Parce que c'est une cause de machloket. Cette amitié qu'on partage pour détester un tiers, ben en fait, cette amitié, c'est quelque chose qui crée encore plus de machloket. Donc, ce n'est pas de la hardout. Bar Kamsa. Donc l'autre et Kamsa, en fait, ils étaient amis contre leur ennemi commun, Bar Kamsa. Voilà. Et l'autre, non. Voilà. Et donc, on avait. Et Bar Kamsa, lui, c'est encore plus que ça. Bar Kamsa, il était fils de Machloket. Kamsa, c'était quelqu'un qui était quelqu'un qui tenait la Machloket. Bar Kamsa, c'est quelqu'un qui est né de la Machloket, quelqu'un qui était tout entier dans la Machloket. C'est-à-dire que l'autre et Kamsa, c'était des balais Machloket. Mais Bar Kamsa, par contre, lui, c'est plus que ça. C'est quelqu'un que toute son existence était Machloket. C'est le fils de la Machloket. Il est né dedans. Il est tombé dedans quand il était petit. D'accord. Donc, en fait, Kamsa aussi, il était coupable. S'il y avait juste l'autre contre Bar Kamsa, alors, ça aurait pu être résolu. Parce que quand on est deux et qu'on se retrouve tête à tête, on peut résoudre les choses. Mais quand, en fait, moi, je suis pas tout seul et qu'il y a aussi mon autre ami Kamsa et que si, moi, je me rabiboche avec mon ennemi, alors, et après, je vais avoir Kamsa sur le dos. Puisque Kamsa, c'est l'ennemi de Bar Kamsa. Donc, Kamsa, même qu'il n'est pas là, il m'empêche de faire la paix. Donc, Kamsa, il est coupable. Parce qu'en fait, il y a des associés, il y a une association dans la haine. Et comme dans une association, je ne peux pas faire ce que je veux, quand on est associé dans la haine, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, quelque part, c'est possible que le Maharal veut dire ici, c'est que la raison pour laquelle l'autre, il a refusé les offres, les propositions de Bar Kamsa, c'est parce qu'en fait, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Il avait un allié. Et contrairement à un Trump, faut respecter ses alliés. Voilà. Il n'a pas envie maintenant, parce que s'il fait la paix avec Bar Kamsa, alors il aura Kamsa sur le dos. Il dit ça, je veux pas. Non. Les Chachamim, ils étaient faibles. Les deux, tu as Kamsa et Bar Kamsa. En fait, les deux, ils sont coupables. Bark Hamza, c'est le bal marloquet. Et Hamza, c'est le mec qui est derrière et qui dit, bah, vas-y, vas-y, qui dit au voilà, qui, son ami à lui, vas-y, défonce-le. C'est qu'en fait, là, ouais, plus que ça, c'est que la vraie marloquette était en Hamza et Bark Hamza. L'autre, Kaniré, il était qu'en troisième dans cette histoire. Il n'a pas de nom, en fait. Ouais, c'est intéressant. Un peu quand même, parce qu'il aurait, il a refusé. Il a refusé. Les maïs, c'est lui, mais c'était cet homme-là. Bon. Je sais pas. Je sais pas. Mais au contraire, parce que oui, le troisième, il n'a pas de nom. Le troisième, Kamsa et Bar Kamsa, ils ont un nom. Le troisième, il n'a pas de nom. Ça, c'est faudrait analyser. Là, pour l'instant, j'ai pas de chat. Oui. Oui. Parce qu'à la base, c'était une vieille marloquette. Et plus que ça, c'est qu'on voit que Bark Hamza, Kenyre, c'était lui l'instigateur de la marloquette. Ce qu'on appelle Bark Hamza. C'est vraiment, c'est quelqu'un, c'est. L'exemple, c'est. Dans Tintin, c'est la zizanie. Pour ceux qui lisent Tintin, qui ont lu Tintin. Quoi? Il y a très longtemps, mais la zizanie. Pas Tintin, pardon, c'est Astérix. C'est Astérix, c'est la zizanie. Oui, le petit bonhomme vert. Bah, Bark Hamza, c'était la zizanie. Alors. Et donc il dit, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette marloquette, que la marloquette a été tellement forte qu'il y avait des gens dont l'existence entière jusqu'au nom, c'est la marloquette. Quand quelqu'un, son nom, c'est marloquette, c'est toute son existence, elle est comme ça. C'est vraiment, c'est pour ça, on l'appelle, comment il s'appelle? Il s'appelle Bark Hamza. Je sais pas. Non, une humiliation qu'il voulait éviter. Bon, on avance. Donc, il dit, c'est à cause de ça que Jérusalem a été détruit. Et Dafka, comme on avait dit, c'est le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit à cause de la Sinatrinam, comme on avait expliqué au préalable. Ouais. Et à part ça, dit-il, il y avait plus de Havdout bizarrement dans le Beit Sheni que dans le Beit Rishon. Beit Rishon, la moitié du temps de Beit Rishon, il y avait deux royaumes. Il y avait Israël et Yehuda. Il n'y avait pas tellement de hardout dans le Beit Rishon, de base. Mais dans le Beit Sheni, à la base, il y avait de la hardout. Ouais. Ouais. C'est que dans le premier Beit Hamikdash, il y avait des problèmes, mais dans le premier Beit Hamikdash, il y avait des grandes mahalot, mais il n'y avait pas de hardout. Dans le deuxième Beit Hamikdash, il y avait moins de mahalot, il y avait moins de shrina, il y avait une hardout. Et donc, comme on a dit, le premier Beth Amikdash avait été détruit à cause de la Touma. Et le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam, qui annule l'unité, la hardout du peuple. Comme on avait expliqué en long, en large, en travers dans le Perek d'avant. Donc, ça, c'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Kamsa et Bar Kamsa, c'est une ambiance qui est tellement délétère que tu as des gens dont toute l'existence, c'est la marloquette. Et quand on en est arrivé là, que tu as des gens qui s'appellent Kamsa et Bar Kamsa, alors. Ces mauvaises midotes, ces problèmes métaphysiques, ils deviennent histoire. Ils quittent le domaine des idées, des hashpaot, de la Rouhaniyout, des olamot haelyonim, et ça devient de l'histoire, ça devient une mécanique. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont en marloquette, mais on ne les appelle pas Monsieur Marloquette et Madame Marloquette. Une fois qu'on arrive à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Marloquette, ça devient de l'histoire, c'est fini. C'est plus juste des problèmes métaphysiques, on est absolument dans le réel et il n'y a plus rien qui tient. Ça, c'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Dans Yehuda, il y avait de la. Dans Yehuda, non, dans Israël, il y avait de la hardout, mais le peuple juif, il n'était pas meuchad. Il n'y avait pas de la shonara. Mais ça, c'est justement, ça qu'on dit qu'il y avait de la shonara, c'était à la fin. Mais il n'y avait pas vraiment de hardout. Il n'y avait pas de Sinatrinam, mais il n'y avait pas de hardout. Puisque dans le Beit Sheni, il y avait de la hardout, le Yetzer Hara, il s'est battu pour mettre de la Sinatrinam. Dans le Beit Rishon, il n'y avait pas de hardout tellement, mais il n'y avait pas de Sina, c'était neutre. D'accord. Donc ça, c'est l'histoire de Yerushalayim. Maintenant, quand on parle de Tourmalka, c'est la montagne du roi, c'est une région qui était très densément peuplée. Et la Gemara, elle explique c'est quoi l'histoire? Que avant les mariages, quand il y avait des mariages, on faisait sortir devant eux un coq et une poule en signe de fertilité. Puisque, comme on sait, la poule, elle pond tous les jours. Et c'était Matim à Tourmalka. Pourquoi? Parce que Tourmalka, c'est un endroit de très forte densité de population. Cet endroit, il y avait beaucoup de gens. Et donc, c'est des gens qui étaient très concentrés sur l'abondance, sur la fertilité. Donc, quand il y avait un mariage, ils bénissaient les gens, soyez fertiles, puisque là, on est là pourquoi? On est là pour être nombreux. On est là, ici, nombreux. Donc, c'est pour ça que ils avaient une bracha particulière qui avait trait à la fertilité. Et à cause de ça, c'est que Tourmalka a été détruit. Que quoi? Que les légionnaires de Rome, ils sont venus prendre ça. Comme on expliquera plus tard. Les légionnaires de Rome, ils voulaient se battre. Ils sont venus saisir ces symboles de fertilité parce qu'ils voulaient combattre la fertilité des Juifs. Vieux problème. Ouais. Pas seulement, mais c'est. Ouais. Et on dit c'est à cause d'un carrosse. De la cloison d'un carrosse que Bétal a été détruit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un y naissait, on construisait, on plantait un cèdre, comme on expliquera plus tard. Et pourquoi est-ce qu'on plantait un cèdre? C'est en signe de solidité du couple. Ouais, Bétal, c'est un endroit solide. Donc, sur quoi on insistait? Moins sur la fertilité que sur la solidité du couple. Donc, on plantait un cèdre en signe de solidité. Et quand ils se mariaient, on leur faisait une choupa. Et donc, c'est un signe qu'ils seraient toujours protégés et qu'ils aient ce qu'on appelle Bayit Ne'eman, une maison de confiance, une maison qui ne s'effondre pas. Donc, en fait, c'était des signes de la solidité du mariage. Pourquoi? Parce que Betar, c'était une forteresse. Donc, là-bas, une forteresse, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de gens qu'il y a là-bas. C'est le fait que c'est une unité économique, sociale, qui est indépendante, qui est autonome et qui n'a pas besoin d'aide. Donc, quand les gens ils se marient là-bas, on dit tu dois être à l'image de cet endroit-là. Tu dois être indépendamment. Toi, en tant que ton couple, il doit être solide. Et c'est pour ça qu'on plantait, on faisait ces carrosses, ces choupotes à base de cèdre. Et donc, c'est ça, c'était partie de bêta. Et donc, c'est ça aussi qui a été détruit. Quand les Romains ils se sont attaqués à la choupa de cèdre, en fait, ils s'attaquaient à la solidité de Bétard. Et donc, ce n'était pas juste quelque chose d'accidentel, c'est qu'en fait, il y avait des symboles auxquels on touchait ici. Et le Maharal, il va expliquer ça au fur et à mesure. Il continue. Excusez-moi, je suis un peu enroué ce soir. Voilà. On va avancer encore un petit peu. Quoi? Non, mais c'est-à-dire que c'est pas faire des choses qui sont logiques, faire une forteresse, c'est pas un manque de émouna, c'est juste de la bonne stratégie. Ben, au contraire, c'est qu'on veut, on te dit, puisque de la même manière, on veut être un endroit de gens solides, pour que, par exemple, si les gens ils sont solides, alors la forteresse elle peut être solide. Mais si on a une forteresse où les gens c'est des gens fragiles, ben, elle ne sera pas défendue longtemps. Mais il y a une idée aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit de force. Ah.
Quand ils ont conquis Israël, on dit si il y a des grandes forteresses, alors ils sont pas agiles, ils ne sont pas confiants. Est-ce que dans ce cas-là, la forteresse est mieux
Il y a les deux, mais le problème c'est qu'il y avait les deux, c'est que la forteresse elle est là en dernier recours. A priori, on est confiant. Si on a un problème qui est au dehors de tout, on ne peut pas gérer. Alors, on a toujours la forteresse. D'ailleurs, c'est même en Gaule à l'époque, si je me rappelle bien mes leçons d'Astérix, encore une fois. Mais justement, Vercingétorix, il s'était réfugié une première fois à Gergovie parce qu'en se retranchant dans une forteresse qui était surélevée, il avait l'avantage, il a pu infliger une défaite aux Romains. Le problème, c'est que les Romains, ils ont appris quand il a fait la salle à Alésia, il s'est fait rétamer. Mais la première fois, l'idée de la forteresse, c'est un dernier recours, mais il faut qu'elle soit là. Alors, il dit, mais il faut encore savoir encore une autre chose dans ces trois endroits-là. C'est quoi? C'est qu'Yerushalayim, elle est au milieu de la terre. C'est comme le cœur qui est au milieu du corps. Yerushalayim, elle est Be'emtsa Olam. Elle est au milieu d'Eret Israël. Et il y a Eret Israël, elle est au milieu du monde. Yerushalayim, c'est au milieu d'Eret Israël. Et Beth Amikdash, c'est au milieu de Yerushalayim. Stam, d'un point de vue géographique, dans le monde antique, qui était composé de l'Eurasie et de l'Afrique, bah, Israël était très convoité parce que c'était ce qu'on appelle un verrou. Tu voulais passer de l'un à l'autre, fallait que tu passes le chemin le plus court, passer souvent par Eretz Israël. Donc elle était au milieu du monde habité. Et Yerushalayim, c'est au milieu d'Eretz Israël, le Beth Amikdash, c'est au milieu. Donc Yerushalayim, ça figure le cœur. Ouais. Bétard, ça fait référence, ça ressemble au bras droit. Parce que comme on sait quelque chose qui est central, si je suis quelque chose qui est au centre, sous-entendu, il y a quelque chose à sa droite et à sa gauche. Donc, Bétard, ça représentait la main droite. Ouais, la main droite, elle est forte. Ouais. La main droite, elle est forte. La main droite, elle est forte. Et on plantait là-bas des choses fortes. Pourquoi? Parce que le cèdre, c'est quelque chose de tellement fort que tous les ruchot chez Baolam, en mezizin otam im koma. Le cèdre, c'est un arbre très fort. Et donc, c'est comme on dit, Etzraïmi la machazikimba, il y a un autre passouk. Il y a un autre passouk. Mais en tout cas, c'est la force, elle est à droite. Et la gauche, elle représente, Tourmalka, c'est la gauche, parce que la gauche et le ribouille, ils vont ensemble. Ça, c'est une idée qu'il va falloir développer. Quel rapport entre la droite et la force? Quel rapport entre le ribouille, et la gauche. Alors il dit, ça tu peux le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à Rotze l'Ashir Yatspin. Celui qui veut s'enrichir, il doit se tourner vers le nord. Pourquoi? Parce que le sud, quand je me tiens vers l'est, quand je me tiens vers l'est, alors le nord il est à gauche et le sud il est à droite. Donc quand je regarde vers le Mizrach, le nord il est à gauche et à Rotsi la Shiryatspin. Et donc le nord qui est à gauche, la richesse elle vient de là-bas. Et c'est quoi l'idée? L'idée parce qu'en fait l'idée elle est comme ça, c'est que toujours tu commences de la droite. C'est de quoi l'idée que tu commences de la droite? Alors là c'est une idée un peu complexe, on va prendre quelques minutes pour l'expliquer. La droite c'est la force. La force elle se dit de quelqu'un qui n'est pas limité. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui n'est pas limité. Il n'a pas de limite. Quelqu'un qui n'a pas de limite et qui est fort, il peut créer. Créer, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Celui qui crée, il est fort. Celui qui conserve, il est moins fort. Il est dans son travail. C'est pas un travail de force, c'est un travail de rigueur et de conservation. Mais il est dans la continuité. C'est-à-dire qu'il y a un début, il va le continuer, il va rage, il va. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que c'est un deuxième point. Le point de départ, c'est toujours le fort. L'homme fort, il arrive toujours en premier. Toujours en premier, on a un homme qui est, dans toutes les choses, on a un homme qui a une idée, un créateur. Et en deuxième lieu, il y a des gens qui arrivent, qui perpétuent et qui sont là pour renforcer, pour maintenir en place. Mais ils arrivent en deuxième. C'est un deuxième point. Le premier point, c'est la création. Et en deuxième, il y a la conservation. Et la main droite, elle représente la force, donc elle représente la création. La main gauche, elle représente ce deuxième point qui vient arriver après. Mais donc, la gauche, c'est un être second. Ouais. Voilà. Le small, ça représente le din, ça représente tout ce qui est second. Le din, par exemple, quand on dit il y a le din, c'est midata din, c'est quoi? C'est que d'abord, moi, je fais quelque chose et le din, il intervient en conséquence. Le digne, il est toujours second. Il n'y a pas un digne qui est premier. Le digne, il est toujours deuxième. Et donc, il est symbolisé par la gauche. Et en même temps, puisqu'il est deuxième, donc, il introduit l'idée de la multiplicité. Abraham, il est tout seul. Et après, il y a Yitzhak. Yitzhak, il est deuxième. Yitzhak, déjà, il introduit une conservation. Pachad Yitzhak. Mais il est deuxième. Abraham, il est créateur. Yitzhak, il vient conserver. Mais il est Pachad Yitzhak. Il est deuxième. Abraham, c'est la droite. Il sera que c'est la gauche, mais il est deuxième. Donc c'est lui qui a introduit le multiple là où il n'y avait que l'unique. Ça veut dire qu'en fait, plus que ça, c'est qu'en fait, la création, c'est toujours une singularité. C'est quelque chose qui est très concentré dans un moment et un endroit. Quand je crée, après, il faut prendre ce qui a été créé, il faut le stabiliser, il faut lui donner une place. Et donc, puisqu'on le stabilise, alors il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. C'est plus un moment, c'est une heure, un jour, une vie. Ça, c'est le dhin. Le dhin, il prend quelque chose qui existait une seconde, il va le fixer dans le temps. Et puisqu'on le fixe dans le temps, il y a plein de choses qui vont s'y greffer. Donc la gauche, elle incarne ce qui est second. Et puisque c'est ce qui est second, c'est elle qui va introduire, en fait, tout ce qui va suivre. En mathématiques, il me semble que si tu as, avec les axiomes nécessaires, si tu as 1 et tu as l'addition, tu peux ajouter au 1. Alors, tu peux faire tous les nombres. Si tu as le 1 et que tu as une possibilité de lui ajouter même 1, donc 1 et 1, ça fait 2. Et partant, tu peux recréer toute la série. Même d'un point de vue de la théorie mathématique, c'est comme ça. Si j'ai 0, 1 et le signe plus, je peux créer tout l'ensemble des nombres entiers naturels. C'est ici l'idée qui dit ici, ce qui est second, c'est ce qui a introduit la possibilité de l'infini et du ribouille. Et donc, à Rotzé Lahachir, celui qui devait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pièces d'argent, qui va avoir le multiple, il doit se diriger vers le nord. C'est une démarche, non pas de création, mais c'est une démarche. On ne devient pas riche en créant, on devient riche en ajoutant. Donc, à Rotzé Lahachir, Yatspin va Rotzé Léharkim Yadrim. Ouais, parce qu'à l'inverse, le Sechel, c'est quelque chose qui rassemble tout. Le Sechel, il prend plein d'idées. Et il les rassemble dans un concept. La richesse, c'est le multiple. L'intellect, il l'unifie. Donc, puisque le nord et le sud, ils sont antithétiques, le nord, c'est le multiple. Le sud, c'est l'unique. Qu'est-ce qui unifie tout? C'est l'intellect. Ouais. Et donc, à Rotzé Léharkim, Yadrim. Ouais. Donc, c'est pour ça que Tour Malka, ça incarne la gauche, qui était faible et donc qui se concentrait, puisqu'elle est pas dans la création, elle est dans le ribouille, elle se concentrait sur le pour vous. Et là-dessus, le Maharal, il finit en disant, réfléchis bien à ce que j'ai dit, Vetavin, et même si moi, j'ai pas le niveau de dire ça, mais je pense que en guise de conclusion pour le Shiro d'aujourd'hui, c'est pas mal. Voilà. Adkan.
L'origine
Oui, merci. Adakubaro pour Ibsamehar.
Pour Yves Samer, Goltoub, à la prochaine. À des prochains Bezrat Hachem.
Mais dans ta
Merci
chaîne.
beaucoup. Goltoub. Ouais, tu disais.